Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Un excellent dimanche avec nous sur RMC et on salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et qui peut-être vont pouvoir profiter de ce long week-end du 1er novembre. Voilà, en tout cas, merci d'être là. Jusqu'à 8h, c'est Laetitia Barlerin, notre vétérinaire qui m'accompagne. Et puis ensuite, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau, notre expert auto. Avec Jean-Luc, on s'intéressera donc à notre essai de la semaine. On découvrira avec Jean-Luc un véhicule que vous connaissez, qui est l'un des plus populaires en France, c'est la Renault Scénic. Il y a un nouveau modèle qui sort, on verra ça tout à l'heure. On parlera aussi du contrôle technique. Des pneus hiver, c'est vrai qu'avec le passage à l'heure d'hiver, il faut y songer, surtout si vous vous apprêtez à rouler parfois sur des routes verglacées ou même sur la neige. Et puis, on parlera aussi de vente aux enchères tout à l'heure, en deuxième partie de ce rendez-vous auto. Jean-Luc à partir de 8h, mais d'ici là, bien entendu, deuxième acte de cette émission dédiée aux animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Laetitia, on va parler tout de suite d'Halloween.
Enfin, de superstition animale. Parce que c'est vrai qu'autour d'Halloween, on a tout ce qui est chauve-souris, araignée,
oui, machin, y a pas ces citrouilles.
Machin. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a... C'est-à-dire que les animaux sont liés à des superstitions dans l'imaginaire populaire, c'est sûr.
Exactement.
Comme le chat noir, on vient d'en parler. Mais il y a aussi d'autres animaux. Et nous avons avec nous Anne-Marie Loras, qui est auteure de Les pouvoirs du chat noir et autres vertus animales aux éditions de La Chaux et Nestlé.
Bonjour
Anne-Marie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors beaucoup d'animaux donc font l'objet, je viens de le dire, même les frais, on va dire, de superstitions. Votre livre est un bestiaire justement de ces superstitions. Alors on connaît le chat noir, mais en fait, on s'aperçoit dans votre livre que le chat fait l'objet de pas mal de superstitions populaires.
Ah, le chat est un animal qui a toujours fasciné l'homme, je crois. On l'attribue soit à une créature de Dieu, soit à une créature du diable.
C'est dingue là quand même. Hein.
Voilà,
c'est deux extrêmes.
Dans l'Égypte antique, par exemple, on était condamné à mort si on s'en prenait au chat.
Tiens.
Et donc on plaisantait pas du tout avec ça. Et en revanche, plus près de nous au Moyen Âge, c'était considéré vraiment comme c'était vraiment là un animal de sorcellerie.
Mmh.
Donc
c'est
on
le diable.
Chassait, on a vraiment fait des chasses aux chats terribles.
D'ailleurs, il me semble bien que le chat noir, qui était encore plus détesté au Moyen-Âge que les autres chats, avait presque disparu de nos campagnes, parce qu'il y avait une sélection qui faisait que, comme on tuait tous les chats noirs, ouais. Du coup, il y en avait de moins en moins.
Mm-hmm.
Heureusement.
Absolument, oui.
Heureusement, aujourd'hui, il y en a. Quoique, il y en a encore dans les refuges, comme je le disais tout à l'heure, parce que les gens ont encore cette superstition du chat noir.
Mais c'est vrai qu'on n'en voit pas énormément, hein.
On n'en voit pas forcément énormément.
Moi, j'en vois beaucoup dans les refuges. Ouais, ils sont magnifiques.
Alors, dans les refuges, peut-être. Est-ce que c'est dû à cette superstition qui reste ancrée dans les esprits? C'est pas impossible. Hein.
Je pense. Mm-hmm. Je pense que oui. Hein, c'est vraiment. Il y a en Angleterre, il y a eu une étude. Il y avait plus de 50% des chats dans les refuges en Angleterre qui étaient noirs.
Tiens.
Ou très foncés. Ce qui est quand même un indice. Alors certes, il peut y avoir plus de chats noirs que de chats blancs en Angleterre, mais c'est quand même un indice comme quoi on est encore ancré dans ces croyances-là.
Ça reste très présent. Hein, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui y croient encore.
Ben oui, malheureusement.
Absolument.
Alors c'est incroyable parce que quand on lit votre livre, on dit mais c'est tout, presque tous les animaux sont... Mm-hmm. Enfin, il y a des croyances autour, il y a même des croyances autour, on parle de chats, autour de la souris. C'est incroyable, cette petite bête.
Cette petite bête, oui. Alors, on peut faire des tas de choses avec la souris. Par exemple, si vous souffrez d'incontinence urinaire, vous pouvez boire le matin à jeun un bouillon de, assaisonné de crotte de souris.
Ah.
Et paraît que c'est absolument radical.
Tiens, ça doit être donc, absolument délicieux aussi.
Je n'ai pas testé parce que je n'ai pas ce genre de problème. Mais... Je transmets la recette que j'ai trouvée dans des ouvrages très très sérieux et c'est quelque chose de récurrent. Donc vraiment les soins à base de crottes de souris et de rats, c'était quelque chose qui manifestement était tout à fait connu et prisé. Ah oui.
Et je crois aussi il y a beaucoup de recettes à base de crottes de chien.
Absolument, pour soigner les rhumes, les maux de gorge. c'est pas compliqué. Vous sortez de chez vous, généralement vous trouvez matière A, vous faites sécher, vous pulvérisez ça et vous vous l'envoyez au fond de la gorge et c'est paraît-il radical.
Bien sûr. Moi, je préfère ma petite pastille au miel.
Ah, mais alors, tiens, si on parle du miel, avec les crottes de souris, on peut faire une excellente pommade pour la pousse des poils.
D'accord. Ah, c'est-à-dire, oui. Pour les messieurs qui perdent leurs cheveux, il faut qu'ils prennent de la crotte de souris, c'est ça?
Voilà, ils se font un petit massage du cuir chevelu avec, de la crotte de souris mélangée à du miel.
Mm-hmm. Ah oui.
Et il paraît que c'est absolument génial.
Écoutez, je commence à avoir ce problème. Je vais tester, je vous tiens au courant.
C'est même irrésistible pour nous, les femmes.
Sûrement.
C'est ça.
Alors, j'ai vu que dans votre livre, on parle des chats noirs qui portent malheur, mais l'âne aussi portait malheur pour les Romains. C'est incroyable, ça.
Eh bien, il paraît qu'effectivement, c'était pas... Mais alors, est-ce que ça peut venir là aussi d'un fond religieux, par exemple, le Christ est entré sur un âne, il s'est fait acclamer, et puis on sait ce qui lui est arrivé par la suite. Mm-hmm. Donc effectivement, on peut toujours arriver à rattacher ça à un fond de religion. En même temps, l'âne est aussi un animal, c'est l'âne qui a protégé l'enfant Jésus dans la crèche.
Ben oui.
Donc c'est aussi un âne qui pouvait être bien vu par la suite. Enfin, c'est... De toute façon, c'est souvent il y a souvent une chose et son contraire. Hein. Dans le même animal, on arrive à retrouver... ça peut être bénéfique pour certaines choses ou parfaitement maléfique pour d'autres.
Ça dépend des superstitions. Et je crois aussi que l'âne, il fait office de Miss Météo.
Absolument, oui.
On va d'ailleurs en avoir un dans le studio la semaine prochaine.
Ah, je suis très, très, très heureux.
Je crois que c'est une histoire d'oreilles, non? S'il baisse les oreilles, il va faire beau ou je sais pas.
Je crois que ça dépend des régions, en fait. Il y en a qui disent que quand il se roule dans la poussière, c'est signe de je ne sais plus quoi d'ailleurs.
De pluie, allez.
Peut-être. Mais on s'en servait aussi pour soigner des tas de choses comme l'épilepsie, comme les coliques, les maladies de peau, enfin c'est... Il peut être très très utile.
Est-ce que l'hirondelle est utile aussi? Elle annonce le printemps, mais encore.
L'hirondelle annonce le printemps encore que pas toujours, mais l'hirondelle c'est un animal un peu sacré. La légende dit que c'est elle qui aurait apporté le feu sur terre et l'eau. Donc elle est extrêmement bénéfique. Elle ne s'installe que dans des maisons qui sont bienveillantes. Dans les foyers heureux, elle s'installe. Et elle
comme quoi, il faut les accueillir.
Donc il faut les accueillir, absolument. Et il ne faut pas les contrarier non plus, parce que ça peut être la source de tas de maux. Elle est capable de faire tarir le lait des vaches. Elle est capable. Donc il faut quand même l'additionner. Il ne faut pas s'en prendre à elle.
Moi, je ne m'en prends pas à elle.
Hein. Vous avez raison.
Alors, on a parlé du miel. C'est vrai que l'abeille aussi est objet de superstitions variées.
Ah ben, l'abeille, c'est la reine, en fait. C'est vraiment... les ruches ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas s'épanouir dans un mauvais environnement avec un maître qui ne les soignerait pas comme il faut. Sinon, elles risquent d'en mourir. Elles ne supportent pas les comportements un petit peu olé-olé, si je puis dire.
Olé olé.
C'est-à-dire
que si, par exemple, oui. Je ne sais pas si vous êtes marié, mais si vous trompez votre épouse, l'abeille risque de s'en prendre à vous. Ah. Il y a de fortes chances pour qu'il y ait tout un essaim qui vous attaque, par exemple.
Eh bien, dites-moi.
Voilà.
Vaut mieux vivre en ville, quoique en ville, il y a des ruches maintenant. Mais...
il y a des ruches, effectivement. Et... mais il ne faut pas les compter non plus, les abeilles. C'est vraiment, quand on a plusieurs ruches, il faut en dissimuler certaines pour qu'on ne puisse pas les compter. Parce que si on les compte, c'est, on va attirer le malheur sur les ruches.
Ah, dites. Enfin, comptez les ruches, pas les abeilles, parce que si on commence à compter les abeilles.
Non, il ne faut pas compter les ruches.
Ah, les ruches. Parce que ouais, compter les faut... abeilles,
mais parce
non,
que compter
non,
les abeilles, ça ne doit pas être facile. Ça doit... Au bout d'un moment, on a mal à la tête, je pense.
Je n'ai pas essayé, à vrai dire.
Eh bien, dites-moi. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup, Anne-Marie Loras.
Merci beaucoup. Merci,
les pouvoirs du chat noir et autres vertus animales qu'on trouve dans les bonnes librairies.
C'est aux éditions de la Chouignessé.
Très bien.
Voilà, merci, merci Anne-Marie.
Merci beaucoup à vous.
Bon dimanche, au revoir.
À vous aussi, au revoir.
Bon, Laetitia, il faut acheter en tout cas un ticket de loto et le frotter sur le chat noir. Peut-être que ça peut nous porter bonheur, c'est ça, hein,
si bah oui.
7h19, on revient dans un instant. Le 32 16 ou bien animaux@rmc.fr. Tiens, on parlait justement de superstition. Est-ce que vous êtes superstitieux? Est-ce que vous pensez que les animaux ont leur mot à dire dans cette histoire-là? Vous pouvez nous le dire, hein, nous appeler pour témoigner. 32 16 ou bien animaux@rmc.fr. À tout de suite, on revient dans un instant.
RMC 6h-8h. Vos animaux. RMC, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
Il est 7h21, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Avant de retrouver la météo et les infos de 7h30, Laetitia, on va parler des oiseaux. C'est vrai qu'avec le changement d'heure, ça y est, on est passé à l'heure d'hiver. Hein, ça, c'est pour info. Sachez-le, il est 7h21. Eh bien, on se pose la question. Peut-être que bientôt, il va falloir, avec les jours qui raccourcissent et surtout qui se refroidissent, nourrir les oiseaux.
Oui, peut-être. Est-ce qu'il faut vraiment nourrir les oiseaux?
C'est vrai.
Alors, on va le poser la question à Frédéric Giguet, qui est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et auteur de nombreux livres, dont le dernier livre qui s'appelle « Le Petit Larousse des oiseaux de France et d'Europe », qui vient de paraître chez Larousse.
C'est pas bête.
C'est pas bête.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Frédéric, bienvenue.
Oui. Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est vrai que avec l'heure d'hiver, qui dit hiver dit jour plus court, bien sûr on l'a vu, peut-être froid, en tout cas on va voir avec la météo, peut-être pas aujourd'hui, et surtout raréfaction de la nourriture dans la nature, est-ce que l'on peut aujourd'hui commencer à donner à manger aux oiseaux ou faut-il attendre?
Alors oui, bien sûr, on peut commencer. Nous, on a l'impression que les jours vont être plus courts parce qu'on a changé d'heure, mais pour les oiseaux, hein, il s'agit juste d'une minute par jour de changement.
Oui.
Le fait est que, effectivement, il fait un petit peu plus froid. Les petites graines sauvages qui étaient dans les champs commencent à être déjà toutes mangées. Les oiseaux migrateurs sont passés ou sont encore en train de passer et ont aidé à vider le stock de cette nourriture. Donc oui.
Ah
bon
non,
moment.
Les oiseaux migrateurs se sont arrêtés chez nous et ont vidé le stock, c'est ça?
Ah bah, ils mangent aussi pendant la migration quand ils s'arrêtent. Donc chaque année, ça fait partie de l'équilibre. Hein. Chaque année, ils vont aussi consommer une partie de graines d'insectes qu'il y a chez nous. Ils s'arrêtent chez nous justement parce qu'il y a à manger, sinon ils iraient plus loin.
Ah oui, bah on est le grenier de l'Europe. Hein.
Oui. Ou en tout cas, on l'était. Parce que j'en profite aussi pour vous parler des premiers résultats d'un observatoire que l'on a lancé en 2012 avec la Ligue pour la protection des oiseaux.
Oui.
Qui s'appelle l'Oiseau des jardins, auquel vos auditeurs peuvent participer. Donc chacun peut observer les oiseaux dans son jardin ou un jardin public et saisir les données sur le site de l'observatoire oiseaudesjardins.fr. Et on a commencé à analyser les premières données et on s'aperçoit que plus les jardins sont entourés d'agriculture intensive, plus les oiseaux qui vivent dans le milieu agricole rentrent vite dans les jardins pour chercher des graines aux mangeoires. Donc on a effectivement un lien entre la disponibilité des graines dans la nature, dans les champs notamment, et le fait que certaines espèces ne trouvent plus ces graines et sont obligées de venir chercher cette nourriture de substitution aux mangeoires.
Ah oui, d'accord.
Donc ça veut dire que les oiseaux se concentrent aussi en périurbain, en milieu, dans les jardins de particuliers, voire en ville aussi.
Alors voire en ville, après il faut qu'ils puissent rentrer jusque dans le centre des villes, c'est un petit peu plus difficile. Là, il va falloir des corridors, une trame verte, hein,
qu'on, oui.
comme on appelle ça. Mais l'idée, c'est que bon, les petites mésanges, les rouges-gorges, ça, c'est des espèces que vous avez un petit peu partout. Elles vont venir dans les jardins chercher des graines, elles peuvent en trouver ailleurs. Mais les bruants, les moineaux friqués, les linottes mélodieuses, si vous en voyez souvent à votre jardin, c'est vraisemblablement qu'elles ne trouvent plus de graines dans les champs autour de vous et qu'elles ont besoin de cette nourriture dans votre jardin pour survivre à l'hiver.
Donc ça veut dire que si on habite à la campagne, si on a des champs cultivés autour, il vaut mieux leur donner à manger, justement, ils viennent chercher dans notre jardin.
Voilà. Et surtout, alors si on a du bocage avec de belles prairies en place depuis des décennies, des haies et de l'agriculture biologique, on aura peut-être moins d'oiseaux que si on a des grandes plaines céréalières où là, effectivement, les oiseaux viendront préférentiellement à la mangeoire parce qu'il n'y a pas de graines ailleurs. Et on suppose aussi qu'il y a eu un changement dans la politique agricole commune qui interdit de laisser des chaumes ou des sols nus en hiver.
Oui.
Donc on n'a plus des chaumes de maïs ou de blé ou d'autres cultures avec plein de petites plantes sauvages et plein de graines perdues qui sont disponibles pour les oiseaux en hiver. Les agriculteurs sont obligés de ressemer un couvert végétal qui va servir d'engrais vert et sur lequel on va passer un herbicide au printemps pour le tuer avant de labourer. Mmh. Donc il n'y a plus de graines. Il y a eu un changement de politique agricole commune pour préserver les sols et les nappes phréatiques, hein, pour
oui.
Pas que les sols s'abîment et que les eaux aussi emportent le sol avec elles. Mais d'un autre côté, ça a été très défavorable à la biodiversité.
Et du coup, il vaut mieux avoir un beau jardin avec justement de la nourriture pour les oiseaux. Et qu'est-ce qui est le plus dangereux en hiver pour les oiseaux? C'est le manque de nourriture ou le froid?
Alors le froid, ils arrivent à y faire face, oui. Surtout avec le climat qui se réchauffe, ça ne devrait pas être un problème. mais effectivement, c'est le manque de nourriture. Alors, la nourriture leur permet de faire face au froid. On sait que les petites mésanges, par exemple, dans le nord de la Finlande, où il y a très peu d'heures de jour, hein, il y a juste 2-3 heures de jour au cours d'une journée, elles arrivent à manger énormément pendant ces 2-3 heures. Ensuite, elles se mettent dans un nichoir ou une cavité d'arbre, et elles se roulent en boucle, elles se mettent comme en léthargie, avec le rythme cardiaque qui se ralentit. Donc les oiseaux peuvent s'adapter à des conditions de froid relativement drastiques. Par contre, pour ça, il leur faut à manger. Donc il leur faut de l'énergie. Et c'est cette nourriture qu'on peut leur proposer, surtout des graines de tournesol. Ça, c'est pratique parce que ça leur impose une activité physique pour ouvrir la graine et accéder à la nourriture. Mais classiquement, on peut mettre des boules de graisse, on peut mettre des graines de Niger, des petites graines noires qui sont très prisées par les chardonnerets notamment, qui est une espèce qui va pas très bien en ce moment. Donc voilà, on a différentes possibilités. Les boules de graisse, ça je sais Laetitia que c'est une de votre spécialité.
Oui, moi j'adore les boules de graisse. Je m'en fais tous les matins au petit déjeuner et je suis en forme pour la journée.
Vous voyez, vous passez très bien l'hiver chaque année. Donc...
Eh ben ouais. on va en parler justement de l'alimentation.
Frédéric, vous restez avec nous car nous avons quelques questions d'auditeurs justement qui s'interrogent concernant la nourriture qu'ils peuvent donner aux oiseaux. On en parle dans quelques instants après la météo et les infos. Et puis sachez que si vous nous appelez au 3216 et que vous passez à l'antenne ce matin, on va vous offrir justement tout ce qu'il faut pour nourrir les oiseaux l'hiver, à savoir une petite mangeoire ainsi que la nourriture qui va à l'intérieur. Offert par RMC Botanique. Météo info et on revient sur RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
C'est RMC, le week-end des experts, les animaux jusqu'à 8h. Et puis ensuite, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau, notre expert auto qui sera là. On parlera tout à l'heure des pneus hiver avec Jean-Luc. On évoquera aussi les conséquences du changement d'heure sur la sécurité routière. L'essai de la semaine, ce sera la Renault Scénic 4, 1 litre 5 DCI 110. Et puis, on s'intéressera aussi aux ventes aux enchères automobiles. Est-ce qu'on peut faire de bonnes affaires dans ce genre de rendez-vous? Et puis surtout, quel type de voiture? Notamment, bien sûr, des voitures de collection qu'on peut retrouver. Et on retrouvera aussi l'actualité de la semaine avec automoto.com et vos questions au 3216. Laetitia, d'ici là, c'est notre rendez-vous animaux qui se poursuit. Et on évoque ce matin le fait de nourrir les oiseaux en hiver. on l'a vu, c'est important de le faire, même s'il faut, il faut pas faire n'importe quoi.
Hein. Et oui, et nous sommes avec toujours avec Frédéric Giguet, qui est professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et auteur d'un livre qui s'appelle Le Petit Larousse, des oiseaux de France et d'Europe, qui vient de paraître chez Larousse, bien sûr. Et Frédéric, nous avons un auditeur qui aimerait vous poser une question sur les oiseaux de jardin.
Et c'est Jean. Bonjour, Jean.
Oui, bonjour.
Bienvenue,
oui, bonjour, Jean.
Bonjour Laetitia, bonjour François et bonjour Frédéric.
Oui.
Oui, je voulais vous poser une petite question. Je l'ai écrit sur mon SMS. Le nichoir que j'ai, qui est destiné aux mésanges, elle le refuse systématiquement. Alors j'ai confectionné un nichoir pour GUP qui a carrément rien à voir. Et elles vont dedans. Et elles sont allées deux fois dedans. Cet été. Donc, ce que je voulais savoir, c'est que est-ce qu'il faut nettoyer ce nichoir maintenant,
oui,
ou est-ce qu'il faut laisser tel quel pour qu'elle revienne l'été prochain, enfin, ou le printemps prochain?
Alors, est-ce qu'il faut laisser les nichoirs dans les arbres en hiver, les nettoyer ou pas, Frédéric?
Alors, bonjour Jean. Alors, oui, effectivement, c'est oui, une bonjour. Question intéressante et importante que beaucoup de personnes se posent. Il faut imaginer que dans la nature, dans les trous naturels dans lesquels les mésanges vont nicher, personne ne va les nettoyer. Ce sont les mésanges. Non, donc on n'est pas obligé. Voilà. On n'est pas obligé de les nettoyer, et notamment parce qu'en hiver, certains oiseaux peuvent aller dormir dans les nichoirs, voire même à plusieurs quand il fait froid, donc on peut tout laisser. Mais ces vieux nids sont aussi le lit de parasites, d'acariens, de larves, de mouches plates qui vont rester tout l'hiver et qui vont pouvoir recoloniser de nouveaux oiseaux au printemps. Donc, on peut laisser le nichoir non nettoyé jusqu'on va dire au mois de février. Oui. Et à partir de février, on nettoie tout, on enlève les anciens matériaux puisque de toute façon, ils ne seront pas utiles pour le nouveau nid et on élimine ainsi tous les potentiels parasites qui auraient pu attendre de nouveaux oiseaux.
Mais on les laisse vraiment en hiver parce que ils peuvent constituer des dortoirs quelque part pour les oiseaux.
Alors voilà, certaines espèces, comme je disais tout à l'heure dans le nord de la Finlande, les mésanges, elles vont passer toute la nuit très froide dans une cavité. Donc s'il y a des nichoirs, c'est très bien. Et si les mésanges du jardin, celles qui ont niché dedans sont encore là, elles vont peut-être aller pouvoir s'abriter quand il fait très froid dans les nichoirs.
Voilà.
D'accord. On a Christiane aussi.
Voilà. Merci Jean, merci pour la question.
Merci beaucoup Jean.
C'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent parce qu'on sait qu'on doit mettre des nichoirs au printemps, mais après, qu'en faire, bien sûr?
Eh bien, on va envoyer aussi à Jean une petite mangeoire, donc, de la marque Evie. C'est tout mignon, hein. Ça a été étudié pour que seuls les petits oiseaux pénètrent à l'intérieur pour pouvoir trouver à manger, bien sûr. Et on offre aussi du beurre d'arachide, hein, Laetitia, qui est très riche et très nutritif, justement, pour les oiseaux, en cette période hivernale qui arrive. Bonjour Christiane.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue
Christiane,
on vous écoute.
Je suis contente de vous avoir parce que je vous ai posé une question parce que j'ai des oiseaux qui viennent sur ma terrasse.
Oui.
Et j'ai deux endroits où, deux petites maisons pour eux. Or, quand je leur donne à manger, les boules, vous savez, avec.
Les boules de graisse
Voilà,
les graines.
Qu'est-ce que je vois des fois? Rien du tout. C'est-à-dire que je crois que c'est une pie qui vient la voler. Alors, je ne suis pas contente parce que je ne veux pas de pie, moi. J'ai des oiseaux mignons comme tout.
Vous n'avez pas mis une pancarte, Christiane? Ici, resto pour mésanges.
Oui, il faudrait bien mieux.
Moineau.
À mon avis, avoir une signalétique plus efficace.
Pie non acceptée. Vous ne l'avez pas mis, ça aussi?
Mais non, ça n'a pas marché.
Et ben voilà. C'est pour ça.
Ils doivent être non-voyants.
Frédéric, qu'est-ce que peut faire Christiane?
Alors, je vais pas faire de plaisanterie, mais peut-être ce qu'on peut faire, c'est pendre les boules de graisse,
oui,
de sorte que par en dessus ou par en dessous, les pies ou les pigeons ne puissent pas y accéder. C'est vrai que c'est souvent un problème. Mm-hmm. C'est aussi pour ça que les meilleures mangeoires, à mon avis, sont celles qui sont des grands silos verticaux qu'on accroche par le haut.
Ah oui. Ouais.
Parce que les pigeons ne vont pas pouvoir venir se percher au bord. Essaient de se percher sur un petit bout, ça déséquilibre totalement la structure. Donc ils n'y arrivent pas. Ils vont pouvoir manger des graines tombées au sol. Donc voilà, l'idée, ça peut être d'accrocher
à une ficelle qui va faire peut-être un mètre de long, les bouts de graisse par-ci par-là, les petites mésanges vont venir dessus, mais les pies ne pourront pas s'agripper à la ficelle parce que ça, voilà, ça va faire tout valser.
Et on peut quand même donner à manger aux pies.
Oui, bien sûr. Alors nous, on dit souvent, par exemple, au mangeoir dans les jardins, il y a parfois un épervier qui passe et qui va tuer une mésange ou une tourterelle. Alors c'est pas la catastrophe, c'est que c'est aussi une mangeoire pour les éperviers. Malheureusement, pour notre plaisir et le plaisir de nos yeux, ils mangent des petits oiseaux. Mais c'est la loi de la nature, c'est un équilibre. Il faut aussi que les éperviers puissent survivre pour que l'ensemble des communautés d'oiseaux et de la nature se maintiennent.
Mais pour les pies, vous donnez quoi à manger ?
Alors, pour les pies, nous, on donne rien. Ce sont des oiseaux très opportunistes qui arrivent très bien à se débrouiller tout seuls. Elles se portent bien. Hein.
C'est vrai.
Comme les corneilles, ce sont des oiseaux vraiment très intelligents.
Elles n'ont pas peur des chats, elles n'ont pas peur des chiens. Ce qui est extraordinaire, quand même.
C'est dingue, ça.
Alors, elles n'ont pas peur. Elles en ont peur, mais elles sont prêtes à attaquer s'il s'agit de défendre leurs petits.
Mm-hmm. Donc,
c'est vrai que chaque année, il y a quelques problèmes qui se posent dans Paris avec des attaques, notamment de corneilles sur des personnes. C'est toujours au mois de mai, fin mai, début juin, quand les jeunes corneilles vont s'envoler. C'est souvent, ou en tout cas, assez souvent des gens qui promènent un chien. Et on ne s'en rend pas compte, mais ça veut dire qu'il y a un poussin de corneille vraiment pas très loin, qu'il y a des individus très rares, qui n'ont pas peur de l'homme et qui vont défendre leur poussin en attaquant. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de ces oiseaux.
Frédéric, on va écouter maintenant Claude, et je pense que c'est aussi une question pour Laetitia. Bonjour Claude.
Oui, bonjour.
Et merci Christiane.
Je voulais vous demander, j'essaye de nourrir des oiseaux en accrochant des boules de graisse aux arbres, etc.
Oui.
Mais j'ai un chat, et je me demande s'il y a un moyen de pouvoir quand même réussir. Enfin, je pense que le chat doit peut-être... Voir un chat, ça effraie les oiseaux et ils viennent pas.
Bah, ça dépend où est la boule de graisse. Les oiseaux sont intelligents.
Aux arbres, je l'accroche.
Voilà, s'ils voient qu'ils peuvent aller manger et qu'il n'y a pas de risque concernant les chats, mais bon, c'est vrai que s'il y a un chat...
Bien sûr.
Ça ne veut pas dire non plus que même si vous avez des chats, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'oiseaux dans votre jardin.
Je vois des oiseaux, mais je trouve que les boules de graisse ne sont pas tellement entamées. Enfin. Et alors, je me demande s'il y aurait quelque chose à faire.
Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, je vais dire quelque chose qui... Enfin, Claude s'en est rendu compte. Et c'est un sujet qui est très à la mode en ce moment dans le milieu de l'ornithologie. C'est le fait que les chats domestiques sont de vrais prédateurs d'oiseaux dans les jardins. Alors, il y a eu une estimation aux États-Unis qui a conclu que les chats sont responsables de la mort de plusieurs milliards d'oiseaux chaque année.
Oui, alors là, Frédéric, vous savez, c'est des études aux États-Unis. On n'a jamais fait d'études en France. Voilà.
Oui, ce sont des extrapolations. Mmh. Voilà. Les études en France sont en cours, avec des moyens qui sont assez sympathiques aussi, qui sont de placer des petites caméras avec GPS sur certains chats, dont les propriétaires l'acceptent, pour voir un petit peu les parcours qu'ils font, où ils vont, ce qui se passe. Je pense que la Ligue pour la protection des oiseaux est en train de tester différentes méthodes pour essayer d'éloigner les chats de la zone où l'on veut nourrir. Il y a des colliers à mettre sur les arbres pour ne pas qu'ils grimpent. Il y aurait peut-être des plantes qu'on peut utiliser, mais là, vous savez sûrement mieux que moi pour éloigner certaines zones.
Alors d'abord, je suis aussi une certaine expérience où justement on a suivi des chats par GPS, etc. Et on a regardé un petit peu ce qu'ils ramenaient comme proie. Et je peux vous dire, dans 90% des cas, au bout d'un mois, on a eu mulots, musaraignes, souris et très très peu d'oiseaux. Alors après, c'est pas non plus au printemps que l'on a fait l'expérience. Donc déjà, faut pas non plus les rendre responsables de tout. Et c'est vrai que concernant les chats, alors il y a la fameuse petite clochette que l'on peut mettre, petit grelot que l'on peut mettre au collier du chat, qui peut éventuellement faire en sorte que les proies entendent le chat arriver. Les Anglais ont trouvé aussi une autre façon, c'est qu'ils mettent aux chats. Vous savez, les fameux chouchous qu'on met dans les cheveux pour les queues, pour se faire une queue de cheval. Eh ben, les Anglais ont trouvé des chouchous, mais vraiment qui ne servent pas le cou du chat, autour du cou du chat. Du coup, avec des couleurs vives. Et du coup, les chats repèrent, les oiseaux repèrent le chat de loin.
D'accord.
Même s'il reste tapis dans un coin, enfin, vous connaissez les chats en position de chasse, et il paraît que ça marche. Et puis, bien sûr, des colliers au niveau des arbres pour éviter que le chat monte dans l'arbre.
Ah, et il me semble qu'en plus, sur ces colliers qu'utilisent les Anglais, les couleurs et les motifs ont été étudiés justement pour correspondre à la vue des oiseaux et pour être beaucoup plus perceptibles pour les oiseaux que pour nous, par exemple.
Voilà. Et on les attend en France, ces fameux chouchous pour chats.
Voilà, on est assez impatients. Vous voyez, moi, j'ai un jardin où je nourris, je n'ai pas de chat.
Oui.
Mais j'ai au moins 5-6 chats des voisins qui viennent se promener. Mmh. Donc il y a forcément quelques oiseaux, notamment des tourterelles turques qui passent, à peu près une par hiver, je pense. En tout cas, une belle plumée par hiver. Et voilà. Et ça fait aussi partie de la nature, de l'environnement, hein, parce que l'homme fait partie de cet environnement. Mais voilà, s'il y a des solutions, c'est vrai qu'on les attend avec impatience.
Frédéric, on remercie Claude pour votre appel, Claude. Et on enchaîne avec Paul qui est là. Bonjour Paul.
Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Bonjour Paul.
Bonjour.
Bonjour à tout le monde.
On vous écoute Paul.
Voilà. Depuis pas mal d'années, on ne voit plus, je parle surtout de Paris, on ne voit plus de petits moineaux.
C'est vrai qu'on...
Ça peut être dû, parce qu'autrefois il y en avait partout. Maintenant il n'y a plus que des pigeons, ou des pies, ou des corneilles aussi. Moi j'habite à Vincennes.
Frédéric, c'est vrai.
On
ne
voit plus de petits moineaux, c'était si mignon.
Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que c'est un grand débat là en ce moment. On voit de moins en moins de moineaux. Est-ce qu'ils seraient sur le déclin?
Alors, oui, on en a beaucoup entendu parler dans les médias là, en fin d'été. On va avoir une idée assez précise puisque le CORIF, le Centre ornithologique de la région Île-de-France, a fait des comptages il y a une dizaine d'années, les a refaits et est en train de les terminer. Donc au mois de novembre, on aura des données pour comparer précisément quartier par quartier dans Paris l'évolution des populations de moineaux. Et oui, on peut dire qu'effectivement, on est en train de voir le moineau, le piaf à Paris, disparaître petit à petit.
À cause de quoi?
Alors, c'est un déclin qui a déjà été observé à Londres, à Copenhague, dans d'autres capitales. Les raisons dans ces grandes villes étaient notamment la disparition des insectes avec lesquels les parents nourrissent les petits dans les deux premières semaines de leur vie. Le moineau, on a l'impression qu'il mange des graines, il a un gros bec, mais comme tous les oiseaux, la première semaine ou les deux premières semaines de vie des tout petits poussins, ils sont nourris avec des chenilles, des larves d'insectes ou des insectes qui leur permet d'avoir une croissance rapide. Et en ville, malgré les efforts pour recréer des espaces verts, pour essayer de mettre moins de pesticides et d'herbicides dans les jardins publics, on a quand même un déficit, hein, tout est jardiné, il y a quand même encore des produits phytosanitaires utilisés. On a un déficit en insectes par rapport à autrefois, parce que la qualité globale de notre environnement est moins bonne. Donc moins de nourriture pour les bébés moineaux. Et puis aussi, on a un type d'architecture qui ne permet plus d'abriter des nids de moineaux. Hein. Il y avait autrefois sous les toits ce qu'on appelait des caches moineaux, où ils pouvaient rentrer sous des tuiles. Maintenant, on a des bâtiments en béton ou en parpaing, avec des toits plats qu'on va végétaliser, mais il n'y a plus de place pour les moineaux.
Alors, heureusement qu'on offre ces petites mangeoires où ils peuvent s'abriter. C'est bien ça.
Voilà.
Merci Frédéric.
Merci Frédéric. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci à vous et merci à vos auditeurs.
Et je recommande votre dernier livre qui s'appelle Le Petit Larousse des oiseaux de France et d'Europe. Et vous offrez toutes les clés pour identifier plus de 600 espèces qu'on peut observer dans nos jardins et dans nos campagnes.
Voilà. Et on offre donc à Paul, qu'on a eu à l'instant au téléphone, cette mangeoire plus la nourriture qui va avec. C'est très mignon parce qu'en plus elles existent en plusieurs couleurs. Voilà, on vous offre ce cadeau, bien évidemment, RMC en collaboration avec Botanique. Laetitia, on revient dans un instant et on va parler du museau des chiens, surtout les museaux gris.
Voilà, est-ce que le grisonnement précoce du museau chez le chien est un indice de trouble du comportement et de mal-être?
Ouh là 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 là. Moi, ça vous a vu, j'ai le museau rose. Hein. Il n'est pas gris, hein. Tout va bien.
C'est bon signe.
C'est bon signe.
C'est bon signe, c'est très bon signe, là.
D'accord. 7h48, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux. À tout de suite.
RMC, vos animaux. RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
pratiquement 8h10. C'est RMC, c'est le week-end des experts et les animaux avec notre vétérinaire qui est à mes côtés chaque dimanche 6h-8h, un rendez-vous exclusif RMC. Notez que juste après la météo des infos de 8h, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Laetitia, on va maintenant accueillir Laurence Dillière, le sœur qui est vétérinaire comportementaliste et auteur du site Kate Dog.
Non, c'est Cat Dog.
Ou Cot, Kate, voilà.
Cat. Et dog.
Comme un cat, quoi.
Comme un cat.
Cat et dog.
Et dog.
Voilà, on y est arrivé. Com. Bonjour Laurence.
Bonjour Laurence.
Bonjour Laetitia.
Bienvenue. Alors, vous invite parce que, selon une étude américaine, qui est parue récemment, le grisonnement précoce du museau chez le chien est signe de trouble du comportement. Alors, comment en est-on arrivé à cette conclusion?
En fait, c'est la célèbre zootechnicienne et comportementaliste Temple Grandin, américaine, qui a réalisé une étude au Colorado, en fait, qui, lors de ses consultations de comportement, a vu observer de manière anecdotique un grisonnement du museau chez de nombreux chiens. Et son impression personnelle, c'était que ces chiens, en fait, présentaient des troubles anxieux ou impulsifs. Donc, elle est partie, elle a émis l'hypothèse que, effectivement, il était possible qu'il y ait un lien de ce grisonnement avec d'éventuels troubles du comportement. Et elle a décidé de réaliser une étude sur 400 chiens environ, avec des photographies à l'appui.
Oui.
Une notation pour grader le grisonnement du museau. Et à partir de là, pour valider son hypothèse, elle a réalisé un test statistique pour savoir si effectivement on pouvait prédire, en fait, déjà s'il y avait une valeur prédictive, c'est-à-dire si effectivement des troubles du comportement, le grisonnement pouvait prédire des troubles du comportement et valider cette hypothèse. Donc le bilan de son étude, en fait, c'est qu'effectivement, elle a corrélé de manière significative le grisonnement prématuré du museau avec un état anxieux ou impulsif.
Impulsif.
Et voilà, c'est ça en fait, les troubles du comportement, c'était à la fois que les chiens présentaient des manifestations anxieuses et des manifestations impulsives. Et par ailleurs, elle a validé aussi effectivement le fait que des réponses craintives vis-à-vis de plusieurs types de stimulation comme des bruits intenses, des personnes ou des animaux qui n'étaient pas familières vis-à-vis du chien, étaient prédictives d'un grisonnement. Voilà. Mais donc en fait, elle a dit qu'on pouvait considérer que le grisonnement du museau pouvait servir de signe d'appel pour prédire en fait un trouble du comportement.
Et est-ce que le phénomène concerne autant les femelles que les mâles, toutes les races?
Oui, il n'y a pas eu de différence entre les mâles et les femelles.
Et concernant les races?
Et concernant les races non plus.
Sauf les chiens blancs.
Alors, les chiens blancs, on les a bien sûr éliminés de l'étude puisqu'il n'était pas possible de valider un grisonnement. Donc, elle a exclu tous les chiens clairs et au pelage blanc de l'étude, en fait.
Mais on sait que chez l'homme, quand on a un choc psychologique, enfin chez l'homme et la femme, ça peut faire blanchir les cheveux. Et ça, on le voit.
Hein.
Est-ce que c'est le même phénomène est-ce qu'on peut le rattacher à ce phénomène-là?
Alors en fait, il y a plusieurs études. Temple Grandin, elle a réalisé cette étude parce que elle est partie d'une impression de départ, mais elle avait rien trouvé dans la bibliographie en fait qui fasse le lien. Chez l'homme, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des facteurs qui prédisposent au grisonnement, comme la vulnérabilité génétique, enfin le fait d'avoir par exemple un père ou une mère qui a les cheveux blancs précocement, et donc vous aurez les cheveux blancs plus précocement. L'impact de la maladie, le mode de vie, bien sûr, le stress, la douleur, l'anxiété, tout ça, c'est des facteurs qui prédisposent. Mais en fait, en général, le grisonnement chez l'homme, c'est toujours multifactoriel, si vous voulez.
Mm-hmm.
Et surtout, il n'y a pas de valeur prédictive. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs qui prédisposent, mais ce n'est pas parce que vous allez être anxieux, juste anxieux, que vous aurez les cheveux blancs.
Mmh.
On peut pas le prédire de manière, il y a pas de validation statistique du phénomène. Par contre, chez le chien, son étude, elle montre que effectivement, il y a une corrélation qui est significative et que en plus, ça a une valeur prédictive. C'est-à-dire que si vous avez un chien anxieux ou impulsif, on peut prédire qu'avant 4 ans, on va observer un grisonnement du museau et des babines.
Mais vous, en tant que vétérinaire comportementaliste, Que pensez-vous de ces conclusions? Faut-il vraiment s'inquiéter si on voit le museau de son chien qui blanchit alors qu'il est jeune?
Alors, moi, je pense que de toute façon, il faut quand même observer. À ce moment-là, si on voit le museau blanchir, effectivement, on peut se poser la question de est-ce que mon chien présente des manifestations anxieuses, par exemple?
Oui. Voilà. Ça peut être un élément.
Voilà, effectivement, puisque son étude, je pense que, bon, elle peut éventuellement servir, justement. Le fait qu'elle dise que ça sert de signal d'appel à un trouble comportemental, ça permettrait justement peut-être aux professionnels de vétérinaire, enfin, ou aux éducateurs canins, ou enfin bon, d'entraîner la personne à faire réaliser une évaluation plus globale du comportement de son animal, afin effectivement de le faire prendre en charge plus précocement. Mais je pense qu'il faut pas s'arrêter au grisonnement, il faut se poser la question à ce moment-là, effectivement, mon chien, qu'est-ce qu'il présente comme manifestation? Tiens, je vais en parler à mon vétérinaire.
Oui.
Vous voyez? Donc
ça peut être un des éléments, mais c'est étonnant quand même. Parce que quand on pense au stress ou à l'anxiété chez l'animal, moi, je pense plutôt au poil qui part. Enfin, c'est-à-dire que le chat ou le chien qui est stressé sur la table de consultation du vétérinaire, il perd beaucoup de poils quand même.
Oui, tout à fait. Il perd instantanément beaucoup de poils. Et souvent, il y a même une hyperséborée qui apparaît. Vous savez, on voit arriver des pellicules blanches en surface. La seule étude qui existait sur les animaux, c'était concernant le stress et le pelage. C'est qu'on a observé en fait des taux de cortisol élevés dans le follicule pileux, mmh, qui étaient en lien avec l'état émotionnel. Voilà, c'était la seule étude scientifique sur le sujet qui existait, en fait, quand Temple Grandin a fait ses recherches. Mais elle, effectivement, c'est un constat en consultation qui lui a plus une impression parallèle qui l'a mené en fait à réaliser cette étude pour valider son hypothèse. Mais c'est vrai que ça paraît étonnant, mais justement, moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est toujours les choses étonnantes qui nous font découvrir,
qui nous font avancer,
des liens qui nous font avancer.
C'est incroyable, ça. Alors, pour finir, quels sont les premiers signes, alors, outre peut-être le grisonnement du museau, les premiers signes d'une anxiété qui doivent amener à consulter?
Alors, bon, nous en médecine vétérinaire, on n'utilise pas du tout le raisonnement des museaux, hein, puisque ça, c'est une étude récente qui montre ça. Mais effectivement, déjà, je pense qu'il faudrait dire peut-être que c'est que l'anxiété. En fait, l'anxiété, c'est quand même une perturbation majeure de l'état émotionnel, qui est une perturbation durable également, quand il n'y a plus possibilité de retour à l'équilibre. C'est-à-dire quand la situation n'est plus réversible, tant qu'elle est réversible parce que le chien subit par exemple quelque chose, on dit que son état est réactionnel, et quand l'état émotionnel est perturbé de façon majeure et durable, on parle de troubles anxieux. Mm-hmm. En général, le chien présente des réactions émotionnelles analogues à la peur.
Oui, hein? Alors, c'est un chien peureux du coup?
Alors, c'est un chien qui va présenter des manifestations de peur, mais qui peuvent se manifester soit sous forme de crise de panique, on appelle ça l'anxiété paroxystique, par exemple. C'est, vous savez, le caniche qui saute sur la table de consultation, qui est en tachycardie, etc. L'anxiété, elle peut se manifester aussi de manière intermittente, et à ce moment-là, c'est plus un état périodique qu'on va observer avec une tendance à l'anticipation et l'apparition d'agression par peur et par irritation. Et c'est d'ailleurs là que c'est important de dire que l'anxiété, c'est une voie possible d'évolution de l'agressivité. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre cela à la légère. Il faut que les gens soient informés. Hein,
et ne pas se dire, il est méchant, c'est son caractère. Voilà.
Tout à fait, c'est pas son caractère. Ça peut être une sonnette d'alerte.
Merci Laurence.
Voilà. Merci. Je répète aussi que vous êtes l'auteur du site sur la santé et le comportement des chats et des chiens, un site qui s'appelle Cat et Dog. .com, qui est très très bien fait, et vous avez des tutos aussi vétérinaires, et vous pouvez même poser vos questions directement au docteur Didier Lesseur.
Laetitia, il est temps maintenant de retrouver notre vidéo LOLCAT de ce dimanche matin. C'est une vidéo toute drôle, alors qui est d'actualité, puisque c'est une vidéo qui met des chiens en scène pour Halloween, déguisés en citrouille, qui viennent chercher des bonbons chez les voisins.
Alors des bonbons pour chiens.
Évidemment.
Et bien sûr, c'est pas du sucre.
Et c'est très drôle.
C'est très
voilà,
drôle.
C'est très mignon à retrouver sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Laetitia, on sera là dimanche prochain.
Oui, je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Je vous embrasse. À très bientôt.
Et merci. Dans un instant, Jean-Luc Moreau pour l'Automobile. À tout de suite après la météo et les infos.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.